22h, vous écoutez Europe 1. Le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous et vous savez qu'il se passe des choses graves ce soir à Strasbourg. On va tout de suite partir sur place en direct. Fusillade en centre-ville, un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il y a plusieurs victimes. On vous retrouve sur place. Arthur Elmbaché, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Vous êtes dans ce centre-ville de Strasbourg qui a été le théâtre de cette fusillade.
Oui, bonsoir Isabelle. À l'entrée du centre-ville qui est complètement bouclé, il n'y a pas une silhouette qu'on aperçoit, à part celle des forces de l'ordre aux abords des camions de police et de pompiers. On a vu passer tout à l'heure un camion de police avec couché sur le toit un policier avec un long fusil. Le policier couché sur le toit qui entrait dans le centre-ville pour apparemment partir à la recherche de ce tireur. Des ambulances entrent dans le centre-ville, des camions du SAMU. On a même vu un énorme camion des hôpitaux universitaires de Strasbourg entrer dans le centre-ville. Que se passe-t-il? Personne n'est en mesure de répondre complètement à cette question. Un tireur à l'intérieur du centre-ville de Strasbourg et peut-être aussi ailleurs, parce qu'il semblerait que quelque chose se passe aussi dans le quartier du Neudorf, un petit peu plus au sud de Strasbourg, pas très loin de la cité administrative. On aurait entendu des tirs. Une opération de police, me dit-on à l'instant, est en cours dans ce coin-là. Toujours est-il que le bilan qu'on nous fournit alors qu'il est, c'est 2 morts. Et 11 blessés en urgence absolue, 2 morts et 11 blessés graves. L'auteur de cette fusillade, s'il y en a un, serait fiché S. C'est une personne qui serait fichée S. Et ici, aux abords du centre-ville, alors que la ville est quasiment vide, tout le monde est resté cloîtré chez soi, les quelques personnes qui sont là consultent leur smartphone, essayent de prendre des nouvelles et regardent les quelques vidéos qui ont été prises au centre-ville du moment de l'attaque avec des silhouettes couché sous des couvertures de survie après l'arrivée des secours, ou alors carrément des moments de l'attaque avec les coups de feu et des gens qui hurlent dans les rues du centre-ville, alors que se tient le marché de Noël de Strasbourg, que le centre-ville est censé être extrêmement surveillé pendant les 4 semaines que dure ce marché de Noël de Strasbourg. Voilà, 2 morts. 11 blessés en urgence absolue.
Merci beaucoup Arthur Elmbaché en direct de Strasbourg. Vous n'hésitez pas évidemment Arthur à nous rappeler à tout moment si vous avez des informations supplémentaires. Pauline Jacquot, confirmation effectivement à l'instant du très lourd bilan de cette fusillade.
Exactement, comme le disait Arthur Elmbaché, 2 morts et 11 blessés en urgence absolue. Des coups de feu ont été entendus aux alentours de 20h à proximité du marché de Noël en plein cœur de la ville. Un individu qui aurait ouvert le feu dans le secteur de la rue des Orfèvres, la rue des Grandes Arcades et de la Grand Rue de Strasbourg. Les personnes qui se trouvaient à proximité de l'attaque se sont réfugiées dans les rues perpendiculaires, dans les rues adjacentes. Plusieurs témoins sur place disent avoir vu des personnes allongées sur le sol en sang pour une partie d'entre elles.
Et concernant le fameux tireur, est-ce qu'on a davantage d'informations?
Alors d'après nos informations, le tireur a été identifié fiché S, français d'origine du Maghreb. Il serait toujours en fuite. La mairie conseille bien sûr à tous les habitants de Strasbourg de rester chez eux et une cellule de crise a été activé au CHU Strasbourg.
Et à l'instant, la section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'enquête. Pauline, vous venez de joindre un Strasbourgeois. Il s'appelle Philippe Lassala. Il habite justement en centre-ville et il a assisté à ces tirs ce soir.
Moi, j'ai monté la promenade de mon chien et j'ai vu 2 personnes au sol. Et d'un coup, quelqu'un est arrivé vers moi en me disant c'est fou, il y a un mec qui tire sur les gens. Donc, du coup, je me suis approché pour voir ce qui se passait. Et effectivement, j'ai vu 1 personne au sol avec du sang qui coulait, qui était inconsciente, et une autre personne qui était juste derrière elle, par terre, et puis des voisins des environs étaient en train de remettre des couvertures dessus pour les réchauffer, etc. Et dans la rue, un peu plus loin des Orfèvres, il y avait encore 2-3 personnes par terre, par terre. Et en fait, effectivement, il y a eu les militaires qui ont la caserne pas loin de là où j'habite, qui sont passés, qui ont commencé à dire aux gens de rentrer, et puis ça a fait un petit mouvement de foule, et du coup, quand j'ai vu que les gens couraient, j'étais juste devant la porte de chez moi, là, qui est une cour intérieure, donc j'ai dit aux gens de venir rentrer, et voilà.
Un habitant de Strasbourg qui a donc assisté à une partie de cette fusillade. À l'instant, on apprend donc confirmation de cette information que nous donnait Arthur Elmbaché. Des échanges de coups de feu seraient en cours actuellement dans le quartier où se serait retranché l'assaillant qui est donc toujours poursuivi par les forces de l'ordre. On va partir maintenant à l'Élysée. Jean-Rémy Baudeau, vous êtes en direct. Jean-Rémy, Emmanuel Macron a quitté ce soir précipitamment la réunion à laquelle il assistait.
Oui, Isabelle, Emmanuel Macron était en pleine réunion avec des parlementaires de la majorité quand son état-major l'a informé de la situation à Strasbourg. Le président a immédiatement expliqué aux élus présents à l'Élysée la gravité des faits avant d'écourter cette réunion. Il a précisé que Christophe Castaner allait se rendre sur les lieux de l'attaque. C'est donc déjà fait puisque le ministre de l'Intérieur vient de quitter la place Beauvau. Juste avant, il nous a fait un premier bilan avant de partir. Le tireur est effectivement identifié. Alors, il fait preuve de beaucoup de prudence. Le bilan qu'il nous donnait il y a quelques minutes, c'était donc 2 morts, plusieurs blessés, dont des pronostics vitaux engagés, a dit le ministre. On sait qu'Emmanuel Macron suit la situation en temps réel, même si pour l'instant l'Élysée fait preuve de beaucoup de prudence tant que la situation n'est pas sous contrôle et que le bilan humain n'est pas stabilisé.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau en direct de l'Élysée. Et je vous propose justement qu'on écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, juste avant qu'il ne parte pour Strasbourg.
Je me rends immédiatement à Strasbourg. Il y aurait, au moment où je vous parle, 2 personnes décédées. Plusieurs pronostics vitaux engagés, 7-8 blessés. Pas plus de précision que cela. L'individu auteur a été identifié. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les opérations sont en cours. Je n'en dirai pas plus, vous pouvez le comprendre. Il est connu en droit commun et je n'ai pas plus d'éléments que cela à vous communiquer. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des éléments dès que ceux-ci seront déterminés. Je vous remercie.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui part donc immédiatement pour Strasbourg. Je vous rappelle que la section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'enquête. Ce marché de Noël de Strasbourg, évidemment, est un marché très réputé, très fréquenté, qui accueille environ 2 millions de visiteurs chaque année, qui mobilise aussi beaucoup de forces de l'ordre qui sont donc sur place en ce moment. Je vous rappelle les consignes officielles. Restez chez vous, ne sortez pas si vous habitez Strasbourg ce soir. Surtout qu'il y a apparemment une fusillade qui pourrait se poursuivre en ce moment dans le quartier dans lequel s'est retranché l'assaillant qui aurait été blessé par des militaires de Sentinelle avant de prendre la fuite. C'est ce qu'indiquent à l'instant des sources policières. Voilà ce que l'on pouvait dire donc pour ce qui se passe en ce moment à Strasbourg. La situation évidemment évolue très vite. Je vous rappelle surtout le très lourd bilan, 2 morts et 11 blessés en urgence absolue. Le tireur a été identifié, il est toujours en fuite. On y revient à tout moment en direct sur Europe 1. On n'hésitera pas évidemment à bousculer nos programmes pour vous tenir informés.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Et en attendant, on va dérouler les autres titres de l'actualité. Et Édouard Philippe, cet après-midi, devant l'Assemblée, qui a fait le service après-vente au lendemain des mesures annoncées par le président pour tenter de répondre à la crise des Gilets jaunes. Un Premier ministre qui a dû expliquer, défendre et tenter de convaincre du bien fondé de la mise en œuvre et du financement de ces mesures, à commencer par les modalités de l'augmentation de 100 euros de la rémunération des salariés payés au SMIC.
C'est un effort plus net parce que nous voulons effectivement que l'ensemble de ceux qui sont rémunérés au SMIC bénéficient d'une augmentation substantielle de 100 euros, a dit le président de la République. C'est ça notre objectif. Nous allons aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que nous voulons aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Et je m'en réjouis.
Édouard Philippe, cet après-midi à l'Assemblée, et l'explication de texte s'est ensuite poursuivie à l'Élysée où Emmanuel Macron a reçu les représentants du secteur bancaire avec à la clé des annonces. Il n'y aura pas d'augmentation des tarifs bancaires l'an prochain. Quant aux frais pour incidents bancaires, ils seront plafonnés à 25 euros mensuels pour les personnes les plus vulnérables. Du côté des Gilets jaunes, beaucoup estiment que le compte n'y est pas et veulent poursuivre le mouvement. Ça donne d'ailleurs des discussions parfois très enflammées. C'est le cas notamment sur le rond-point de Montieu à Saint-Étienne où vous vous trouvez, Jean-Luc Bougeon. On débat beaucoup depuis hier soir.
Oh bah clairement, sur ce rond-point de Montieu, il y a un rejet massif de tout ce qu'a annoncé hier le président de la République. Il nous a jeté des miettes, disent les gilets jaunes stéphanois, notamment sur le SMIC où on trouve que 100 euros, ce n'est vraiment pas grand-chose. Malgré tout, sur la suppression de la hausse de la CSG sur les petites retraites, certains, comme Serge, concèdent qu'Emmanuel Macron a fait un pas dans la bonne direction, mais vous allez l'entendre, il est très vite recadré par une de ses collègues de rond-point.
C'est quand même une bonne chose, on peut pas dire non, c'est toujours mieux que rien.
Mais même, c'est pas du tout assez. Trop de retraités qui vivent dans la pauvreté, beaucoup trop, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont trimé toute leur vie, pour avoir quoi ? Rien, c'est pas normal, pour moi c'est pas assez.
Ouais, c'est vrai qu'on est largement loin du compte. À un moment, il faut arrêter de marcher sur la tête. Les gens, on n'est pas des vaches à lait, on n'est pas des pigeons non plus. Et c'est pour ça qu'on est dehors. On attendait vraiment quelque chose, des mesures fortes, des mesures concrètes. Et là, ce qu'il a annoncé, c'est vraiment des miettes, c'est rien.
Voilà, en une minute, Maya a retourné Serge. Tout se passe donc comme s'il était interdit de dire quoi que ce soit d'un tout petit peu positif sur les annonces du président de la République. Comme si une pensée unique se mettait en place sur les ronds-points où se regroupent désormais des gens déterminés à rester encore et encore et exiger désormais deux choses assez jusqu'au boutiste, la remise en place de l'ISF et la démission d'Emmanuel Macron.
Jean-Luc Beaujon, correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes, des Gilets jaunes qui voient le soutien des Français faiblir. D'après un sondage Opinionway, ils ne sont plus que 45% à souhaiter que le mouvement se poursuive et 54% pour qu'il s'arrête. 450 lycées étaient également encore perturbés. Aujourd'hui, une soixantaine d'établissements totalement bloqués. Les lycéens promettaient un mardi noir. Ça n'a pas été le cas, même s'il y a eu encore plus de 200 interpellations. Parmi les manifestants qui ne veulent rien lâcher, il y a notamment le vice-président de la FIDEL, Marwan Majar.
Emmanuel Macron hier a été minable. Il n'a eu aucun mot pour la jeunesse, alors que la jeunesse est très mobilisée. Notamment les lycéens sont mobilisés comme ils ne l'ont jamais été. Donc nous, on le déplore très clairement. En fait, à un moment donné, si aujourd'hui Emmanuel Macron veut une véritable révolution de la jeunesse, bah, il l'aura. Il aura une mobilisation de la jeunesse comme jamais vue dans l'histoire de la Ve République.
Voilà le vice-président de la FIDEL au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois. Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. On reviendra évidemment sur cette fusillade à Strasbourg. L'assaillant est toujours en fuite. On reparlera également de l'affaire Fillon et puis on partira aussi à Belgrade où le PSG joue gros ce soir en Ligue des Champions. Julien Froment suit ce match pour Europe 1 et pour l'instant, c'est Paris qui mène 2-0. À tout de suite sur Europe 1.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h11, c'est la suite de votre journal, journal dominé par cette information, cette fusillade à Strasbourg qui a fait au moins 2 morts et 11 blessés en urgence absolue d'après un bilan toujours provisoire. Fusillade en centre-ville, un tireur dont on ignore les motivations, il est en fuite, il est actuellement activement recherché, il a été identifié, il est connu pour des faits de droit commun d'après le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui se rend sur place ce soir. La section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'enquête. Le centre-ville de Strasbourg est actuellement fermé, quadrillé par les forces de l'ordre. Les ambulances, évidemment, évacuent les blessés. Les reporters d'Europe 1 tentent de comprendre ce qui s'est passé très clairement et très concrètement ce soir afin de vous donner les informations les plus précises. Emmanuel Macron suit évidemment la situation en temps réel et on y reviendra bien sûr tout au long de cette soirée. L'actualité, c'est aussi le retour de l'affaire Fillon. On a appris cet après-midi la condamnation de Marc Ladret de la Charrière. 8 mois de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. L'homme d'affaires a reconnu avoir accordé un emploi de complaisance à l'épouse de François Fillon, Pénélope. Pierre de Cossette, il a donc été condamné aujourd'hui dans le cadre d'une audience pour le moins particulière.
Oui, dans une salle totalement vide, à l'exception des quelques journalistes informés de ce rendez-vous avec la justice. À la barre, voici donc Marc Ladret de la Charrière, 78 ans, 28e fortune de France, 3,5 milliards d'euros tout de même, et face à lui, le président du tribunal de Paris en personne, Jean-Michel Ayat. Ce n'est pas un procès comme on en a l'habitude. Au début de l'automne, l'homme d'affaires qui était mis en examen dans ce dossier Fillon a écrit au juge d'instruction pour faire acte de contrition et demander une procédure de plaidé coupable qui lui a été accordée, manière sans doute d'éviter à terme un grand procès médiatique. Il y a quelques semaines, avec son avocat, Marc Ladret de la Charrière a donc eu rendez-vous à huis clos avec le parquet financier pour convenir d'une peine qui aujourd'hui devait être validée ou non. Le président, donc à l'audience, revient rapidement sur les faits. 2012, François Fillon demande au milliardaire s'il n'aurait pas un peu de travail pour sa femme. Ce sera la revue des deux mondes. Conseillère littéraire, 135 000 euros de salaire versés en moins de 2 ans pour 2 notes de lecture sous le pseudonyme Pauline Camille et quelques conseils. Ladret de la Charrière dit aujourd'hui regretter de ne pas avoir suffisamment suivi les activités de Pénélope Fillon. Ce sera donc 8 mois de prison avec sursis et l'amende maximale pour abus de biens sociaux, 375 000 euros. Une affaire Fillon qui, mis bout à bout, frais d'avocat compris, lui aura coûté plus de 600 000 euros, sans même avoir l'honneur d'avoir rendu service au futur président de la République.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Merci Pierre. Et puis on suit ça aussi ce soir en direct. Le foot et le PSG qui joue à Belgrade en Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge. En jeu, il y a une place en 8e de finale. Julien Froment, vous suivez cette rencontre pour Europe 1 et pour l'instant, tout va bien pour Paris.
Ouais, exactement, le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 après 52 minutes de jeu. Paris qui a rapidement pris le dessus sur l'Étoile Rouge Belgrade grâce à Edinson Cavani dès la 10e minute de jeu sur un super ballon de Kylian Mbappé. L'Uruguayen a surgi au second poteau pour aller tromper le gardien de l'Étoile Rouge. Et puis à la 40e minute, à nouveau Mbappé à la manœuvre et là c'est Neymar à la finition. Un crochet, deux crochets pour mettre le gardien de l'Étoile Rouge sur les fesses et la frappe imparable pour le gardien serbe. Alors que là, eh bien, l'Étoile Rouge tente de se réveiller un petit peu dans cette partie. A noter que l'ambiance est vraiment exceptionnelle dans ce stade Maracana qui n'arrête pas de chanter, de supporter son équipe. Mais les Parisiens pour le moment sont en totale maîtrise sur le terrain. Les hommes de Thomas Tuchel sont à l'heure où je vous parle, eh bien, leader du groupe C devant Liverpool qui dans le même temps eh bien, est en train de mener face à Naples 1-0. Donc voilà, 53 minutes de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain face à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Merci beaucoup Julien Froment en direct de Belgrade. On essaiera de vous reprendre en direct d'ici 22h30. Je dis qu'on essaiera parce que vous savez que l'actualité ce soir est assez terrible avec cette fusillade à Strasbourg qui a fait au moins 2 morts et 11 blessés en urgence absolue d'après le dernier bilan qui reste provisoire. Fusillade en centre-ville qui a débuté aux alentours de 20h. Un tireur est en fuite. Un échange de coups de feu s'est produit tout à l'heure dans le quartier où se serait retranché l'assaillant. Le tireur a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est en route pour Strasbourg et le centre-ville évidemment est fermé. Les habitants doivent rester pour l'instant et jusqu'à nouvel ordre retranchés chez eux. Emmanuel Macron s'y suit la situation évidemment en direct depuis l'Élysée. Et on va jeter un œil tout de suite sur la météo avec vous Elena Morna. Elena, on aura un peu de tout demain sur la France.
En effet, Isabelle, pluie qui arrosera demain les régions qui bordent l'Atlantique, plus sec l'après-midi sur l'Aquitaine et la Charente-Maritime. Les pluies faibliront dans la journée, elles gagneront le Limousin et le sud du Massif central avec quelques flocons à basse altitude. À l'avant, ce sera plutôt agréable après dispersion des brouillards. Brouillard persistant cependant et donc beaucoup moins agréable sur le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes et l'Alsace avec un ciel qui restera maussade. Plus nuageux sur le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse. Les températures vont fraîchir chaque jour un peu plus et la bise qui arrive sur le Nord-Est va accentuer cette sensation de froid. Alors après les nombreux gelées matinales sur le nord-est, on n'aura pas plus de 1 degré sur le plateau de Langres demain après-midi. 3 à Lyon, 4 à Strasbourg, Auxerre et Clermont-Ferrand, 5 pour Lille et Valence, 6 à Rouen, Paris et Blois, 7 à Nantes et Angers, 9 pour Quimper, 10 à Angoulême et Marseille, 11 à Toulouse, 13 à Bordeaux, 14 pour Ajaccio.
La météo
pour jeudi, la pluie gagnera le sud-est et attention, sur le Languedoc-Roussillon, les pluies vont se renforcer dans la nuit de jeudi à vendredi.
La météo, c'était donc avec Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Juste avant, l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de SAP France, Gérald Carcenti, SAP qui est éditeur de logiciels. A tout de suite sur Europe 1. On va tout de suite repartir à Belgrade, Julien Froment, parce qu'apparemment,
oui,
il se passe quelque chose.
Exactement,
hein.
Belgrade qui revient dans la partie but pour l'Étoile Rouge de Belgrade à l'instant. Donc 2-1 pour les Parisiens après 58 minutes de jeu.
2-1 pour Paris. Merci beaucoup Julien Froment. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h19 sur Europe 1, on s'intéresse tout de suite à la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Encore beaucoup de nervosité ce soir à Wall Street.
Oui, les marchés ont eu bien du mal à se décider. Au final, le Dow Jones perd 0,22%, 24 370 points. Et le Nasdaq, lui, gagne un petit 0,16%, 7 032 points. Les marchés qui ont scruté pendant toute la séance les déclarations de Donald Trump avec des avancées dans le dossier commercial. Les dernières discussions avec Pékin ont été très productives, selon le président américain sur son compte Twitter. Mais il menace aussi de bloquer l'administration américaine s'il n'obtient pas les crédits pour son mur à la frontière avec le Mexique. C'était une de ses promesses de campagne. Et donc, comme souvent, Donald Trump souffle le chaud et le froid et ça a apporté beaucoup de fragilité sur les marchés. Les valeurs qui montent ce soir, on a Nike plus 1,5%, Microsoft plus 0,9%, ça baisse en revanche pour Apple, moins 0,6%. Les cours du pétrole ont terminé en hausse, le WTI avance de 1,3%, 51,65$ le baril. Et l'euro perd 0,3% et s'échange contre 1,1324$.
Et à Paris, le CAC 40, lui, a regagné du terrain ce soir.
Et le marché parisien efface en partie ses pertes d'hier soir, mais pas complètement. Il gagne 1,35%, 4806 points. Les valeurs liées aux matières premières très secouées hier se reprennent. Eramet, Vallourec et CGG bondissent de plus de 5%. Et puis c'est toujours aussi volatile pour les technologies qu'au rythme des tensions commerciales mondiales. Après avoir baissé hier, ST Microelectronics gagne 3%.
Et le titre Suez, lui, a perdu aussi près de 3%.
Oui, moins 2,8% pour le groupe de gestion de l'eau et des déchets. Suez est pénalisé par le statu quo d'Engie. Le principal actionnaire, avec 32% du capital, a finalement décidé aujourd'hui de conserver cette participation. Ça écarte donc les rumeurs de reprise ou de cession à un concurrent comme Veolia. Les autres marchés européens ont terminé dans le vert ce soir. Londres gagne 1,3%, Francfort plus 1,5, Madrid plus 0,9, Milan plus 1, Bruxelles plus 1,2 et le CAC 40 rebondit de 1,3% à 4806 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com. Et avant de retrouver l'invité d'Emmanuel Dutheil, je vous rappelle l'information principale de cette soirée. À Strasbourg, 2 morts, 11 blessés en urgence absolue suite à une fusillade. Des coups de feu ont été entendus aux alentours de 20h à proximité du marché de Noël. On est en plein cœur de la ville. Un individu a tiré dans le secteur de la rue des Orfèvres, de la rue des Grandes Arcades et de la Grand Rue. Des personnes qui se trouvaient à proximité de l'attaque se sont réfugiées dans les rues perpendiculaires. Il y aurait donc, d'après le dernier bilan provisoire, 2 morts, 11 blessés en urgence absolue. Quant au tireur, il aurait été identifié. Il est toujours en fuite. Il serait activement recherché. Un échange de coups de feu, d'ailleurs, s'est produit tout à l'heure dans le quartier où il se serait retranché. Tireur qui a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite. La section antiterroriste du parquet de Paris annonce s'être saisie de cette enquête après évaluation de la situation. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'instant T. Sachez que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est parti sur place à Strasbourg et qu'Emmanuel Macron est sorti précipitamment de la réunion qu'il avait avec les députés et les sénateurs à l'Élysée pour suivre en temps réel cette situation à Strasbourg qui se poursuit. Dernière information, d'après la préfecture, le tireur serait fiché S. Voilà ce que l'on pouvait dire. Évidemment, on y reviendra très régulièrement tout au long de cette soirée sur Europe 1. En attendant, on va tout de suite retrouver Emmanuel Dutheil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur général de SAP France.
Bonsoir Gérald Carsenti.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de SAP en France. L'allemand SAP, c'est l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde. Alors on va commencer par l'actualité. Je ne sais pas si vous avez regardé le président de la République hier soir à la télévision. Il a demandé aux entreprises qui peuvent le faire de verser une prime défiscalisée à leurs collaborateurs là, à la fin de l'année. Est-ce que chez SAP en France, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez?
Alors oui, j'ai entendu ce qu'a proposé le président Emmanuel Macron. Nous, on ne va pas spécifiquement faire ça, mais on a beaucoup de choses en fait. En début d'année, on a le paiement des bonus habituellement, puisqu'on est une entreprise commerciale d'abord. Mais ensuite, on a la participation, l'intéressement, des primes de vacances. Donc il y a plein de choses qui arrivent en début d'année.
Mais il n'y aura pas 2019, chez vous un petit coup de pouce en raison de la situation?
On n'a pas prévu de le faire en décembre. En tout cas.
Pas prévu. Et vous pensez que vos syndicats, vos organisations syndicales vont arriver, vont taper à la porte en disant « Tiens, nous aussi on a entendu ce qu'a dit le président de la République. Un petit effort en plus, monsieur le patron ?»
On va voir.
On va voir, mais il n'y a pas eu encore de coup de fil pour le moment. Alors, SAP fait partie de ces entreprises qui ont parié sur la France. En janvier dernier, votre grand patron Monde avait promis d'investir 2 milliards d'euros en 5 ans en France. C'est bien évidemment colossal. Alors, principalement en investissant dans des entreprises, dans des startups, mais également en créant ici un gros centre de développement. Est-ce que, avec cette crise actuelle, vous avez l'impression que votre grand patron Monde vous dit est-ce que tu es toujours bien sûr que la France, c'est le bon choix?
Il n'y a pas de changement. La chance qu'on a chez SAP, c'est effectivement d'avoir une direction qui croit en la France, qui a vu le potentiel économique, aussi beaucoup de talent. Et ça attire beaucoup les investissements en général depuis quelques temps. Mais en particulier, SAP a pris cette décision effectivement d'investir et de dépenser 2 milliards d'euros sur le territoire national pendant... au cours des prochaines années.
Alors, vous avez fait l'annonce en janvier dernier, il y a donc maintenant quasiment un an. On en est où, ces 2 milliards? J'ai vu que vous aviez déjà commencé à dépenser un petit peu cette somme et à investir dans des startups françaises.
Voilà, en particulier dans les startups. Alors déjà, on a lancé un accélérateur, on a ouvert un accélérateur de startups en plein cœur de Paris, rue Moncey. Donc là, c'est intéressant, puisque dans les prochaines années, on va accompagner 50 startups qui ne sont pas des startups en phase initiale, mais des startups qui ont déjà une petite maturité pour les aider justement, les accélérant à passer à la vitesse supérieure en France, mais aussi à l'international. Et puis, comme vous le dites, soit on rachète des start-up, soit on investit dans des start-up. Les deux dernières acquisitions importantes en France, parce qu'il y en a aussi au niveau international, mais en France, parce qu'on rachète en France aussi, ce qui est très bien. On a racheté Recast Artificial Intelligence en début d'année, qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et la dernière date d'il y a une dizaine de jours, Contextor, qui est le champion de ce qu'on appelle la Robotic Process Automation, c'est-à-dire l'automatisation des processus robotisés.
Et là-dessus, la France a toute sa place dans le monde ?
Ah oui, je pense que depuis en tout cas 2 ans, on sent un vrai changement où tout le monde voit le potentiel qu'il y a en France. Il y a une volonté aussi en se disant que finalement, le potentiel est là, qu'il y a une volonté de réforme et que c'est bien.
Alors je disais, vous êtes l'un des plus gros éditeurs de logiciels au monde, vous êtes quasiment l'un des seuls Européens capables de concurrencer les gros Américains. Du côté des éditeurs de logiciels, il va y avoir un petit défi là en France qui va arriver, c'est ce qu'on appelle le prélèvement à la source qui entre en vigueur en janvier. Vous avez des solutions, vous, pour les entreprises? Tout fonctionne? Il n'y a pas de bug?
Non, alors en fait on a testé avec l'État, on a testé dans les 6 premiers mois de l'année nos logiciels avec des clients du secteur privé et des clients du secteur public. Tout est en ordre de marche. Déjà, les clients peuvent accéder sur les bulletins de salaire au taux de prélèvement défini par le fisc français. Donc, non, il n'y a pas de problème.
Vous êtes du coup très confiant.
Oui,
vous n'avez pas décelé de bugs qui arrivent toujours. On sait qu'il y aura bugs. Mais en tout cas, vous êtes très confiant, vous avez l'impression qu'on est au rendez-vous là aussi.
On ne peut jamais dire 100%, mais je pense que là, oui, on peut dire qu'on est vraiment sécurisé.
Plus largement, l'équipement logiciel est un bon capteur de l'activité économique d'un pays, puisque quand les entreprises changent leur logiciel, ça veut dire qu'elles investissent, ça veut dire qu'elles ont confiance en l'avenir. Est-ce que vous avez l'impression que ça se porte bien en ce moment ?
Oui, ça se porte bien, mais en plus, vous avez raison de le dire, le monde du logiciel est un monde important dans le tissu économique, puisque on rentre au cœur des entreprises, puisque nos logiciels, c'est l'équipement de l'entreprise, c'est l'automatisation des processus, mais c'est aussi d'innovation, puisqu'en fait, nous innovons sur toute la chaîne de valeur que nous proposons à nos clients. Donc, quand les clients, effectivement, achètent des solutions SAP, ça veut dire aussi qu'ils font travailler toutes les sociétés de services autour. Nous avons tous les grands acteurs qui sont autour de nous, des plus petites sociétés qui sont très spécialisées. Donc, il y a tout un écosystème qui travaille autour d'SAP. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, l'activité est soutenue. Et donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce qu'elle est soutenue pour tout le monde ? Puisque quand on regarde les chiffres, c'est souvent pareil en France. Nos grandes entreprises sont très bien équipées, sont même plutôt dans le top mondial. En revanche, on a un taux d'équipement, de digitalisation, de modernisation de nos PME qui reste très, très, très limité là au regard de la moyenne mondiale. Est-ce qu'aussi, au plus profond de notre territoire économique français, on est en train de se mettre à jour et on est en train d'être aux avant-postes?
C'est une bonne question parce qu'en fait...
on essaye d'en poser quelques-unes.
Nous, on est en fait dans les grandes entreprises, mais en réalité, une des décisions qui fait que SAP a décidé d'investir en France, c'est aussi parce qu'il croit dans le dynamisme du marché des PME, PMI, des ETI, etc. Et nous, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on a un très fort dynamisme dans ce secteur d'activité. Et là, il y a beaucoup d'investissements parce que les entreprises se préparent à la compétition internationale. Elles veulent se digitaliser et être extrêmement performantes, plus productives. Et donc, on observe ça. On a une très forte dynamique.
Et c'est assez nouveau, c'est assez récent. Vous avez le sentiment que ces patrons se disent, aujourd'hui, c'est indispensable. Si je veux être dans, comme vous le disiez, dans cette course mondiale, je dois avoir votre solution ou d'autres, puisque vous êtes plusieurs concurrents.
C'est vrai qu'il y a eu un déclic qui s'est opéré au cours des derniers mois. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et où les entreprises se disent, il faut y aller, il faut moderniser, il faut être plus efficace, plus performant. Je crois que le maître mot, en fait, de tous les patrons de PME, PMI ou d'ETI que je rencontre, c'est l'agilité. Ils recherchent tous de l'agilité.
Et vous les sentez toujours confiants?
Ouais, moi je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de confiance. Bon, mais évidemment, en ce moment, on est dans une phase un peu perturbée. Mais je pense que derrière ça repose quand même une grande confiance. Le tissu économique est solide. La France a un potentiel énorme.
Eh ben merci, on terminera là-dessus. Merci beaucoup, merci. Gérald Carcenti, le patron d'SAP en France. SAP, l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde. On se retrouve demain, 22h20, toujours sur Europe 1, bien évidemment.
Merci à vous, Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Évidemment, au moment de mettre sous presse ce soir, vos journaux n'étaient pas encore au courant de cette fusillade en cours dans le centre-ville de Strasbourg. On va y revenir dans un instant, évidemment. Vos journaux qui reviennent donc essentiellement sur les suites de l'allocution d'Emmanuel Macron. Stop ou encore, titre le journal L'Opinion qui s'interroge. Malgré les mesures sociales, le doute demeure sur la capacité d'Emmanuel Macron à apaiser la colère, puis à avancer de nouveau, sans braquer les Français ni dépasser les 3% de déficit. De son côté, La Croix revient sur la contribution des plus riches. Emmanuel Macron a assuré qu'il allait demander un effort supplémentaire aux plus grandes entreprises et aux Français les plus aisés. Sur ce dossier des Gilets jaunes, à lire également demain matin l'édito de Jean-François Laville dans L'Est éclair. Ce n'est désormais un secret pour personne, écrit-il. Le mouvement des Gilets jaunes est protéiforme. Si les deux thématiques majeures sont le pouvoir d'achat et le souhait d'une parole libérée et écoutée, chacun vient avec ses propres attentes, ce qui rend la satisfaction des demandes d'autant plus difficile. Mais désormais, alors qu'Emmanuel Macron a formulé des annonces dont peu de manifestants auraient pu rêver, voilà encore 3 semaines, il est temps de passer à autre chose, écrit le journaliste. Autrement dit, organiser une sortie de crise qui évite toute humiliation. Dans le journal Les Échos, Benoît Georges revient quant à lui sur ce bouleversement historique. La CFDT est en effet désormais la première organisation syndicale de France. Secteur privé et public confondu, elle détrône la CGT. Certes, cette dernière reste en tête des syndicats de la fonction publique devant la CFDT, mais la centrale de Philippe Martinez a perdu 1,3 point depuis le scrutin précédent en 2014. Du coup, l'écart de voix entre les deux syndicats se réduit et comme la CFDT était déjà la première centrale du privé, eh bien, elle récupère le titre, toutes catégories confondues. Voilà pour ce petit tour d'horizon des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et on va rapidement faire un nouveau détour par Belgrade. Julien Froment, le PSG face à l'Étoile Rouge en Ligue des Champions. Et Paris qui mène toujours. Hein.
Oui, Paris qui mène toujours 2-1. Mais je dois bien vous admettre, Isabelle, que la physionomie du match a quelque peu changé. Belgrade est revenu des vestiaires avec d'autres intentions. Et cette réduction du score à la 56e minute de jeu signée Marko Gobedić a complètement relancé cette équipe de l'Étoile Rouge. On le rappelle, hein, pour le moment, avec ce score de 2-1 en faveur du PSG, Paris est qualifié pour les 8e de finale. Paris qui est même pour le moment leader de son groupe devant Liverpool qui pour le moment du côté d'Anfield mène 1-0 face à Naples. Encore une petite vingtaine de minutes à jouer, donc le PSG qui mène 2-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Merci beaucoup Julien Froment en direct de Belgrade. Et puis je vous rappelle évidemment l'information principale de cette soirée, cette fusillade ce soir en centre-ville de Strasbourg qui a fait, selon un bilan qui est toujours provisoire, 2 morts et 11 blessés graves. Fusillade dont le tireur a été identifié. Il est fiché S. Il est actuellement toujours en fuite, actuellement recherché. Il a été blessé par les militaires qui sont à sa poursuite. La ville de Strasbourg est quadrillée par les forces de l'ordre. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se rend sur place et la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette fusillade ce soir à Strasbourg, ville qui accueille, vous le savez en ce moment, le célèbre marché de Noël, très réputé, très fréquenté, qui accueille environ 2 millions de visiteurs chaque année, qui mobilise beaucoup de forces de l'ordre, les forces de l'ordre qui sont en ce moment donc à la recherche du tireur. Restez chez vous, à l'abri si vous habitez à Strasbourg et évidemment je vous retrouverai un petit peu avant 23h pour faire un nouveau point sur cette fusillade. D'ici là, je vous laisse en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle et une pensée de la part d'Europe 1, de toutes nos équipes pour les Strasbourgeois, les victimes ainsi que leurs familles, et on fera évidemment un point avec vous dans 25 minutes.
À tout à l'heure.